Un Africain de 39 ans a été battu à mort ce vendredi à Civitanova. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et elle choque tout un pays et beaucoup dénoncent un crime raciste à l'égard de ce Nigérian. L'Italien suspecté du meurtre d'un vendeur nigérian dont la mort brutale par passage à tabac sur une artère très fréquentée a été arrêté par la police. Les Babdo, donc qui ont filmé la scène, n'ont à aucun moment tenté de maîtriser l'agresseur. La vidéo de l'attaque a largement circulé sur les sites d'information et les médias sociaux italiens, suscitant l'indignation alors que l'Italie entre dans une campagne d'élections législatives dans laquelle la coalition de droite a déjà fait de l'immigration un enjeu. Le meurtre d'Alika Ogorchukwu donc est consternant, a écrit donc samedi sur Twitter Enrico Letta, l'ancien premier ministre et chef du parti démocrate de gauche, en nommant le vendeur décédé vendredi. Une férocité inouïe, une indifférence généralisée, il ne peut y avoir aucune justification selon lui. Le leader de la droite, Matteo Salvini, qui fait de la sécurité un axe de sa campagne, s'est également indigné de ce décès, affirmant que la sécurité n'a pas de couleur et doit redevenir un droit. Ogorchukwu, de 39 ans, vendait des marchandises vendredi dans la rue principale de Civitanova, marche une ville balnéaire de la mer Adriatique, lorsque son agresseur a saisi la béquille du vendeur et l'a frappé, selon la police. Une vidéo montre l'agresseur en train de lutter contre la victime, la plaquant sur le trottoir alors qu'elle tentait de se défendre. L'agresseur s'en est pris à la victime, le frappant d'abord avec la béquille, l'a fait tomber sur le sol, puis il a terminé causant la mort en frappant à plusieurs reprises à main nue, a déclaré l'enquêteur de la police Matteo Luccioni lors d'une conférence de presse. Il a ensuite dit à la chaîne d'information italienne Sky TG24 que des badauds avaient appelé la police qui est intervenue après la fuite du suspect pour porter secours à la victime. Une autopsie déterminera donc si la mort a été provoquée par des coups, une suffocation ou une autre cause. La police a utilisé des caméras de rue pour suivre les mouvements de l'agresseur et a arrêté un homme identifié comme étant Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, de 32 ans. Il est soupçonné de meurtre et de vol du téléphone de la victime. Selon Luconi, l'agresseur s'est emporté après que le vendeur a demandé de la monnaie de façon insistante, selon lui. La police a interrogé des témoins et visionné des vidéos de l'attaque et ils ont déclaré que le suspect n'a fait aucune déclaration. « Je suis horrifié par ce climat électoral », a-t-il déclaré sur les médias sociaux. Un frère a été tué d'une manière atroce et raciste pendant que des passants prenaient des vidéos sans arrêter l'agresseur. Et au lieu de réfléchir à ce que nous sommes en train de devenir, les politiciens argumentent et instrumentalisent, affirme-t-il. Et pourtant, ce genre d'affaires est très fréquent en Italie et même partout dans le monde et cela touche toujours les Africains. En mars 2019, un Italien de 65 ans a tué par balle un Sénégalais, apparemment pris au hasard sur un pont du centre de Florence. Selon la presse italienne, il n'aurait pas osé tirer sur les premiers passants croisés sur le pont qui marchaient avec des enfants. Mais il a tiré à 6 reprises sur le suivant, donc un Sénégalais de 54 ans. Ce dernier a succombé à ses blessures. En février 2018, un jeune Italien sympathisant de l'extrême droite a ouvert le feu donc sur des Africains, blessant 6 parmi eux. Une fusillade, donc attribuée à un jeune sympathisant d'extrême droite, a fait 6 blessés d'origine africaine. Les blessés, 5 hommes et une femme, sont originaires du Mali, du Ghana et du Nigeria. L'auteur de la fusillade, Luca Treni, âgé de 28 ans, avait vidé 2 chargeurs avec son pistolet alors qu'il roulait en voiture. Et selon la police, le jeune au crâne rasé a réclamé une Italie aux Italiens. Et on en passe, ce genre de crime est assez fréquent en Italie, donc, mais également à travers le monde. Comment cela se fait-il donc que rien ne se fait pour ces crimes en Occident? Faudrait-il donc que l'Afrique mette en place une sorte de grand tribunal qui traiterait des actes barbares et racistes envers les Africains à travers le monde? Les États devraient être condamnés pour avoir alimenté le racisme, pour pouvoir exploiter ces drames dans lors donc de leurs élections. Ne peut-on pas considérer également cela comme étant un crime contre l'humanité? Le parquet de Paris a annoncé ce mercredi 3 août l'ouverture d'une enquête après la mort d'un Français tué par balle en Côte d'Ivoire la mi-juillet. Une enquête a été ouverte du chef homicide involontaire. Les investigations ont été confiées à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, comme l'a déclaré le parquet. Et selon plusieurs sources, les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier dans la ville d'Abidjan, accompagné d'un ami. Après un dîner, l'individu de 31 ans a été abattu par deux hommes alors qu'il descendait de son véhicule. L'ami de la victime n'a pas été touché par les tirs. Les meurtriers ont ensuite pris la fuite, dérobant le téléphone et l'argent de la victime, probablement pour brouiller les pistes. Plusieurs éléments de l'enquête restent encore flous. L'enquête devra préciser le déroulé des faits, comme le précise une source proche du dossier. La justice ivoirienne aurait aussi ouvert une enquête et une demande d'entraide pénale internationale aurait été transmise à la Côte d'Ivoire. Et selon les informations du quotidien Le Télégramme, la victime, originaire de Bretagne, habitait la Côte d'Ivoire depuis 2018 et travaillait pour Bouygues Construction sur le chantier du métro d'Abidjan. Pour l'instant, les informations sont encore floues concernant ce Français, donc on va suivre l'affaire de près. Par contre, et pour la énième fois évidemment, ce qui a attiré notre attention, et ce n'est pas un fait nouveau, c'est bien la couverture médiatique. Un Français meurt en Afrique et tout de suite les médias, donc surtout français évidemment, sautent sur l'occasion. Par contre, et toujours en Côte d'Ivoire, ce sont des milliers d'Ivoiriens qui ont été tués par les militaires français, notamment lors de la crise en 2011. Mais plus récemment, par exemple, en avril 2022, un jeune gardien de bœuf a été tué des suites d'une explosion dans la zone de Boni-Andokro, donc tout maudit centre, abritant le grand militaire ivoirien de l'Aumône Nord où des militaires français du 43e Bima menaient une campagne de tir. Le décès est survenu dans la zone de tir de Toumoudi, précisent les forces françaises en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un jeune gardien de bœuf et de son troupeau, une soixantaine de bœufs, donc dans la zone de Boni-Andokro, le camp de l'Aumône Nord, des suites d'une explosion. Une enquête judiciaire a été ouverte le 20 avril, indique l'état-major des armées des forces françaises en Côte d'Ivoire, annonçant que toutes les activités militaires auraient été suspendues dans la zone afin que les enquêtes ivoiriennes puissent mener à bien leur investigation. Des autorités militaires sont également sur place pour appuyer les autorités judiciaires ivoiriennes, renseigne l'armée française dans un communiqué. La levée donc du corps et la mise en terre du jeune répondant au nom de Dourcy Barry ont eu lieu ce jeudi. L'inhumation s'est tenue en présence de la famille du défunt, de Madame la sous-préfète d'Abigui et d'une délégation des forces françaises en Côte d'Ivoire. L'imam en mission au FFCI a également participé à la prière des morts, poursuit le texte. Il est en outre annoncé donc une enquête française qui sera menée auprès des forces militaires qui étaient présentes lors de la campagne de tir. Une info qui est quasi passée à la trappe. Personne n'en a entendu parler, ce qui veut dire effectivement qu'il y a très souvent des Africains qui se font assassiner de la sorte par des militaires français sans que les médias occidentaux ne couvrent l'information, sans aucune condamnation de la part des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. Et surtout, on ne voit jamais aucune sanction qui ne tombe sur les États occidentaux dont le racisme ne fait qu'augmenter à cause des oligarques et des médias propagandistes qui ne font qu'alimenter les divisions au sein des populations. En bref, c'est à l'Afrique d'exprimer son indignation, donc au monde, face à ce genre de crime et personne d'autre visiblement. Je peux vous dire aussi qu'il est déjà sur la table de la CEDEAO la création d'une force anti-putsch. Nous sommes au 21e siècle. Le coup d'État est inadmissible et inacceptable. Non, c'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants, a souligné le président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumaro Sissoko Embalo. Et c'était le 28 juillet dernier. Le général Embalo n'a pas donné plus de détails sur cette force anti-putsch qui sera le bras armé de l'organisation sous-régionale pour empêcher la conquête du pouvoir par la force. La fin d'une certaine flexibilité et d'une clémence de la CEDEAO à l'écart des auteurs des coups d'État militaires. Dans une sous-région tourmentée par des coups de force militaires, la création d'une telle force est devenue une nécessité, voire un passage obligé. Pour qu'une telle force puisse atteindre ses objectifs, il faut que les membres de la CEDEAO soient en première ligne dans son financement. Dans une certaine mesure, l'Union africaine peut apporter un appui conséquent dans la constitution et le financement de cette armée sous-régionale, dont la création est en soi, selon eux, dissuasive. Étant la première armée de la sous-région, le Nigeria devrait donc accepter d'assumer pleinement et efficacement son rôle de leader dans le pilotage de cette force, malgré les nombreux problèmes d'insécurité qui déstabilisent le pays depuis des années. Les coups d'État militaires constituent certes des reculs majeurs pour certains pays d'Afrique de l'Ouest, une région où des peuples, à travers des choix dans les urnes, ont prouvé qu'il est possible d'aller à une alternance pacifique du pouvoir, mais au bénéfice de pays tierces comme la France ou encore les États-Unis. Toutefois, la mise en œuvre de l'initiative de l'actuel président en exercice de la CEDEAO doit tenir compte des conditions dans lesquelles surviennent ces coups de force condamnés par les textes communautaires. Cette force empêchera-t-elle donc les chefs d'État qui font fi du fait qu'ils détiennent pour certains leur légitimité des pays occidentaux et donc leur légalité à exercer le pouvoir en son nom de se permettre tous les abus contre ce même peuple avec une communauté internationale qui, évidemment, ferme les yeux. L'initiative serait donc lancée par la France et les États-Unis afin qu'elle puisse garantir que les pays d'Afrique de l'Ouest ne suivent pas la voie du souverainisme, mais cela de la poche des Africains. Donc encore une fois, ce serait donc aux pays africains donc de se retrouver à financer un projet alors qu'ils ont besoin de s'allier pour combattre ensemble le terrorisme qui, pour rappel, a été encore une fois importé et financé par les Occidentaux sur le continent. Les armées africaines doivent s'unir pour éradiquer le terrorisme une bonne fois pour toutes et donc vaincre l'impérialisme et non pour rassurer les Occidentaux ou encore pour servir leurs intérêts.
Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé le 4 août 2022 à Niamey à la pose de la première pierre du projet de la zone économique industrielle Harris-Abidjan-PK24 pour la création d'emplois et le développement durable d'activités industrielles à haute valeur ajoutée pour l'économie locale. Le groupe Harris est un développeur d'écosystèmes industriels et logistiques. Il apporte ainsi des solutions pour la croissance économique et participe à la transformation économique des pays partenaires à travers des projets diversifiés dans des filières variées. Pour le Premier ministre ivoirien, Harris Ivoire, filiale ivoirienne, a engagé un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire en signant 3 conventions de concession de partenariat public-privé. Le Mali et la Guinée décident de renforcer les corridors ferroviaires et routiers. Le Mali et la Guinée ont décidé jeudi de renforcer les corridors ferroviaires et routiers entre les deux États. C'est ce qui ressort d'un conseil des ministres spécial de la République de Guinée auquel une délégation malienne a pris part. La délégation a porté un message du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Gouata, à son homologue de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a déclaré « Nous avons été agréablement surpris par cette initiative du président de la transition guinéenne de nous convier à cette session spéciale du Conseil des ministres de la République de Guinée. Ce geste est le témoignage de l'engagement panafricain du président Doumbouya comme du président Gouata. C'est un geste d'union, d'unité et de solidarité. Nous sommes convaincus que les peuples maliens et guinéens comprennent exactement la portée de cet événement. » Le lundi 1er août 2022, aux environs de 20h, un groupe d'hommes armés a envahi le village de Garbougna, situé à une quinzaine de kilomètres de Dargol, région de Tillaberi. Selon les informations, 3 personnes auraient trouvé la mort. Au nombre d'une demi-douzaine, les assaillants seraient venus à bord d'un véhicule et des motos. Ils ont commencé par des tirs qui ont perturbé la population. Cette attaque intervient quelques jours après la prorogation de l'état d'urgence dans cette localité lors du dernier conseil des ministres. Il faut rappeler que l'attaque intervient juste 2 mois après celle de Varaou qui a fait 8 morts et 33 blessés dont 6 graves. Il y a quelques jours, une autre attaque a ciblé le poste de police à la sortie de Torodi sur Axe menant à Niamey. Ouverture d'une nouvelle route maritime entre Alger et Dakar. L'Algérie poursuit l'exécution du plan d'augmentation de ses débouchés commerciaux en Afrique, notamment vers la côte ouest du continent. Une liaison maritime régulière entre l'Algérie et le Sénégal a été ouverte dimanche 31 juillet 2022. Cette nouvelle desserte maritime constitue le prolongement de ligne Alger-Nouakchott lancée fin février, laquelle constituait un positionnement stratégique de l'Algérie pour s'introduire sur le marché ouest-africain vu la proximité du Sénégal et de la Mauritanie. L'Algérie, depuis quelques années, cherche à diversifier ses sources de revenus et réduire sa dépendance vis-à-vis des recettes pétrolières en misant sur l'intensification des échanges commerciaux intra-africains. Le pays, qui est aussi un gros producteur de gaz, de fer, entre autres, entend tirer au maximum parti de ses secteurs.